Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Le ministre des Hydrocarbures annonce l'annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers. Motif, les rapports de validation respectifs de la commission révèlent notamment une absence des candidatures, des offres non recevables et un défaut de concurrence, explique le ministre Sako Mbimolindo. Journée mondiale de la canne blanche, c'est aujourd'hui 15 octobre, une journée dédiée aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Son objectif, permettre à cette catégorie de personnes de sécuriser leurs déplacements et d'être identifiées comme malvoyantes par les personnes voyantes. Et puis, Octobre rose, c'est l'intitulé de la campagne de sensibilisation initiée par l'OMS pour lutter contre le cancer du sein. Pour en parler, nous recevons le docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille de Beni au Nord Kivu. À tous et à toutes, bonjour. Le ministre des Hydrocarbures annonce l'annulation du processus d'appel d'offres des 27 blocs pétroliers comme raison justifiant cette décision. Aimé Sako Mbimolindo évoque les rapports de validation respectifs de la commission qui révèlent une absence des candidatures, des offres non recevables, des cas de dépôt tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières et un défaut de concurrence. Dans un communiqué rendu public hier, le ministre des Hydrocarbures indique que ceci empêche la poursuite de la procédure vers l'attribution des droits d'hydrocarbures. Dans le même document, le ministre annonce la mise en place du mécanisme pour relancer incessamment la même procédure. Par conséquent, il demande aux candidats ayant soumissionné de prendre contact avec la commission ad hoc pour les modalités pratiques. Jocelyne Moussaoupondé nous rappelle ici le processus d'appel d'offres relatif au bloc pétrolier.
Ce processus d'appel d'offres relatif aux blocs pétroliers avait été lancé le 28 juillet 2022. Ces blocs se répartissent dans les trois principaux bassins sédimentaires de la RDC, à savoir le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins de la branche ouest du rift Est africain. Selon le ministère des Hydrocarbures, la RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer le pays au premier plan des grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique. Une commission ad hoc a été instituée par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2023 portant nomination des membres de ladite commission sur l'attribution des droits d'hydrocarbures en République démocratique du Congo et a procédé à l'évaluation des soumissions des différents candidats. Avec cette décision du ministre des Hydrocarbures, le processus est donc interrompu.
En Ituri, un mois après le lancement de l'opération de saisie des véhicules circulant sans plaque d'immatriculation par le commissariat provincial de la police, les demandes d'immatriculation explosent. On en compte déjà plus d'un millier, affirme le centre d'impôt synthétique de Bounia. L'ONG de défense des droits de l'homme Justice Plus demande aux autorités de mettre du sérieux dans cette démarche et de poursuivre toute pratique d'octroi illicite des plaques d'immatriculation. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Cette mesure de la police est saluée par de nombreux acteurs et leaders communautaires. Selon eux, cette opération de saisie des engins roulants sans plaque d'immatriculation à Bounia va non seulement faire respecter le nouveau code de la route, mais aussi aider à lutter contre la criminalité urbaine. Dans son rapport rendu public dimanche, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Justice Plus, salue cette mesure de la police nationale congolaise qui vise, selon elle, à remettre de l'ordre dans le secteur des transports en province. Cependant, elle demande aussi à la police d'étendre cette opération sur l'ensemble de la province. Par ailleurs, de nombreuses personnes qui ont introduit des demandes de plaques d'immatriculation au bureau de la DGI Bounia sont servies progressivement. Entre-temps, des centaines de véhicules des particuliers sont mis en fourrière au niveau de l'état-major de la police. Pour les récupérer, ils doivent payer au moins 5 dollars américains par jour pour frais de garde de leurs engins, en plus des amendes, indique-t-il. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, la société civile du secteur de Rwenzori dénonce les tracasseries et les barrières illégales érigées par des éléments des FARDC sur certains axes de desserte agricole. C'est notamment dans les localités de Kinyembaore et Loselose. Cette structure citoyenne évoque même des menaces et des intimidations à l'encontre des cultivateurs qui refusent de payer le montant exigé. Contacté, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FARDC rappelle l'ordre du commandant de secteur heures ordonnant la suppression de toutes les barrières illégales sur les routes des dessertes agricoles et averti que les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Le colonel Mac Azoukai le dit au micro de Marc Marofimbo.
Nous ne devons pas croire à toutes les accusations portées contre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires de l'UPDF qui sont en train de se battre, qui sont en train de faire des choses remarquables aujourd'hui, qui ont porté des fruits dans Rwenzori, dans Malikai et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un seul souci, celui d'éradiquer la menace qui a migré à l'ouest de la nationale numéro 4. C'est vrai que le brebis galeuse ne manque pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de récidiver dans cette partie-là, mais je sais qu'il n'y a pas longtemps, l'ordre a été donné à tous les commandants de cesser avec cette pratique honteuse de taxation sur des barrières érigées illégalement d'ailleurs sur les routes des dessertes agricoles. Si l'information est vérifiée, ils savent qu'ils peuvent à tout moment être sanctionnés si l'information venait à être confirmée.
Restons au Nord Kivu, au moins 9 kilomètres de route, dont environ 5 kilomètres de l'avenue Turunga au nord de Goma, seront asphaltés d'ici 2 ans. Le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami, a lancé les travaux hier à Turunga. C'est dans le cadre d'un projet d'amélioration des infrastructures de la province. Ce nouveau projet aura un coût global d'un peu plus de 13 millions de dollars, selon certaines sources de la province. Dans l'actualité aussi, lancement hier à Kinshasa du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de la savane, organisé par l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt en partenariat avec la Banque mondiale. Ce programme vise l'amélioration de la gestion des paysages et renforcer les moyens de subsistance des communautés. Selon Clément Vangou, coordonnateur de UCPF, ce programme qui s'étend de 2022 à 2026 vise 7 provinces de la RDC, à savoir Congo central, Kinshasa, Kikwit, Kasai, Kasai central et Lomami. On écoute à ce sujet la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, au micro de Arcel Kajourou.
L'engagement que la RDC a pris pour lutter contre le réchauffement de la planète se focalise essentiellement sur le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt. De même, la République démocratique du Congo a pris d'importants engagements au niveau international, régional et au niveau national pour faire face au changement climatique. Voilà pourquoi le ministère de l'Environnement et du Développement durable se sent comblé de vous avoir présenté ce projet intitulé « Programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes ». Ce projet, pour un montant de 300 millions de dollars, s'exécutera dans le cadre des partenariats pays de la Banque mondiale pour la période 2022 jusqu'à 2026. Nous sommes prêts de poursuivre donc.
Célébration aujourd'hui 15 octobre de la journée de la canne blanche, c'est en référence aux personnes non-voyantes et malvoyantes. La canne blanche permet en effet à cette catégorie de personnes de sécuriser leurs déplacements et d'être identifiées comme malvoyantes par les personnes voyantes. Jacques Sambea, coordonnateur de l'ASBEL CRI de Bartimé, explique ici le pourquoi de cette journée et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il est au micro de Plamedi Mbiavanga.
En 2024, la canne blanche reste un luxe pour un déficient visuel congolais. Et pourtant, elle est indispensable pour l'identification. Ça l'identifie face aux usagers de la route, et ce qui régule la circulation. Ça facilite aussi la locomotion de ces derniers. Pendant notre pèlerinage vers l'intérieur du pays, à l'espace Kivu, cet instrument reste vraiment un luxe. Pourquoi? Parce que ces derniers ne bénéficient pas d'une allocation mensuelle. Et quand je parle de la canne, c'est la canne canadienne, qui est de la meilleure qualité. J'en ai une qui a déjà fait 3 ans. Ça a une boule en dessous et vraiment là, ça facilite la locomotion. Si ces derniers avaient une allocation mensuelle, un forfait cécité ou une prime handicap qui leur permet d'être autonome, de se prendre en charge, ça va vraiment les faciliter la tâche.
Kassai Central, les organisations de la société civile de l'espace Kassai engagées de manière efficace pour une riposte optimale du VIH-Sida ainsi que la reconnaissance et le respect des droits des personnes vivant avec la maladie participent à un atelier à Kananga. Cette session est organisée par l'Alliance nationale des organisations de la société civile engagées dans la riposte multisectorielle au VIH-Sida à Norse en sigle, ce en collaboration avec le PNMLS avec l'appui de l'ONU-Sida. D'après le président du conseil de cette organisation, le souci est de mettre en place un réseau pour renforcer la lutte contre la maladie. On écoute Dominique Moukania.
Les attentes sont claires. D'abord, à l'issue de l'atelier, toutes les organisations de la société civile de l'espace Grand Kassai vont bénéficier du recadrage. Donc, ils vont connaître c'est quoi une fêtière, c'est quoi une plateforme, c'est quoi un réseau avec les mandats respectifs. Ils seront renforcés dans ce domaine et aussi ils vont être renforcés dans le CLM qui est le Community Led Monitoring. Et à la fin de cela, nous allons mettre en place le comité à Norse. D'abord, nous commencerons par le Kassai central et puis ceux qui sont venus de ces quatre autres provinces voisines du Kassai central vont faire à leur tour les élections pour organiser à Norse dans les cinq provinces de l'espace Grand Kassai.
Direction la province du Bazouélé. Les conditions de détention à la prison centrale de Bouta doivent être améliorées. Le plaidoyer est du président de l'Assemblée provinciale du Bazouélé. Une délégation de cet organe délibérant dit s'être rendue compte de cette situation samedi dernier lors d'une visite effectuée dans cette maison carcérale. Jacques Moukonkolé, reportage.
Les conditions de détention à la prison centrale de Bouta laissent beaucoup à désirer. Constat du président de l'Assemblée provinciale du Bazouélé, Simon Toutou, à la tête d'une délégation des membres de son bureau samedi dernier dans cette maison carcérale.
Quand il pleut, vraiment tout le monde est dans la mare, dorme dans de très mauvaises conditions. Et ce qui est pire, il n'y a pas de cellules pour les femmes. Tout le monde est entremêlé avec tous les risques possibles sur les femmes. Au niveau de la prison, il n'y a pas même un petit dispensaire. Quand vous tombez malade, vous êtes vraiment abandonné et vous courez vraiment la mort.
Après s'être rendu compte de cette triste réalité, le bureau de l'Assemblée provinciale compte mener des plaidoyers auprès des autorités compétentes afin d'humaniser cette prison. Selon Simon Toutou, le gouvernement central avait pris l'engagement dans ce sens et a veillé à la régularisation des emprisonnements. Actuellement, la prison de Bouta compte 81 détenus. Parmi eux, 13 seulement sont déjà condamnés, tandis que 68 autres sont des prévenus non encore fixés sur leur sort, faute de juge. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En politique, signalons la rentrée politique du parti politique Union Congolaise UCO. Environ 5000 nouvelles personnes ont adhéré jusqu'à hier au parti initié par Daniel Moukoko Samba. Se félicite son directeur de cabinet Clinton Bamana, appelle ses nouveaux membres de l'Union Congolaise à s'approprier les mesures urgentes prises récemment par le gouvernement contre la vie chère, mesures dont les premiers résultats sont palpables à travers la révision à la baisse du prix du litre d'essence à la pompe. Pour le directeur de cabinet du président national de l'Union Congolaise, le cheval de bataille de son parti est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Clinton Bamana l'a dit à Michel Kifindangoy.
Nous avons voulu, par notre activité, donner la parole à la population afin qu'elle comprenne en réalité les efforts considérables qui sont consentis par le gouvernement de la République en ce qui concerne leurs intérêts les plus pressants, notamment la protection et l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Il était nécessaire pour nous de venir ces jours parler avec la population pour qu'elle se rende compte que le travail s'est fait. Et d'ailleurs, les résidents sont là. Les carburants baissent à la pompe. Le peuple est conscient. En réalité, dans ce pays, nous avons des acteurs politiques. L'Union Congolaise se positionne comme cette formation politique qui, en réalité, défend et rencontre les aspirations les plus profondes du peuple. Et c'est pourquoi, compte tenu des efforts et de l'amour qu'affiche le professeur Daniel Moukoko Samba à mettre en place des politiques qui permettent à la population de trouver un ouf de soulagement, ce peuple lui a donné un message fort en adhérant à son parti politique pour lui dire « Nous sommes avec toi ».
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan du Sud. Des inondations soudaines ont affecté des centaines de foyers, déclarent les Nations Unies, laissant plusieurs familles sans abri et sans accès à l'eau potable. Dans l'état de Jonglei, dans la ville de Bor, quelques 375 ménages se sont retrouvés sans abri après que des fortes pluies aient provoqué des inondations dans quatre zones de la capitale de l'état. Un chef de la communauté de Bor signale que les eaux des crues étaient contaminées, entraînant le paludisme, la pneumonie et d'autres maladies.
L'invité.
Le cancer de sein, une maladie héréditaire fatale dont le danger est permanent pour la communauté féminine. L'alerte est de l'OMS qui a initié le projet Octobre Rose afin de sensibiliser la communauté sur cette maladie. Pour en parler, nous recevons le médecin directeur de la clinique Ma Famille de Beni, docteur Gisèle Kilomba, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Docteur Gisèle Kilomba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous sommes dans le mois d'octobre, dit Octobre Rose, initié par l'OMS pour la sensibilisation de la communauté en général sur la maladie des cancers des seins. Tout d'abord, comment expliquez-vous scientifiquement cette maladie ainsi que son origine?
La population a l'obligation de connaître et de savoir. La détection précoce du cancer du sein contribue à améliorer les taux de survie. Parce que le cancer, c'est une maladie fatale, mortelle. Mais le cancer a des stades. Il y a stade 1, 2, 3, 4. Le début d'un cancer est anodin, ça ne fait pas mal. Quand ça fait mal, donc il y a un problème. On va détecter le problème quand il y a la douleur. Et quand on a détecté cela à cause de la douleur, le cancer c'est la multiplication en désordre des cellules dans l'organisme. Donc, quand il y a déjà des métastases, même si on soigne l'organe qui est atteint, le sein, mais il y aura déjà métastases et prolifération dans d'autres cellules qui détruisent la vie. Par exemple au niveau du poumon, au niveau des os du bassin, c'est pour cela nous toutes. Quand une femme et une maman te dit qu'elle a souvent des douleurs des hanches, il faut l'amener à l'hôpital. On va aussi examiner les seins. Parce que c'est probable que dans l'organisme, un seul organe comme les seins peut altérer la vie. Et tôt on détecte, tôt on améliore les taux de survie.
Nous voulons savoir si quelle tranche d'âge qui connaît plus de cas de cette maladie et quels en sont les signes.
Bon, d'abord, je demande à toutes les femmes en âge de procréation, donc toutes les filles qui ont déjà commencé à avoir les menstruations, il faut qu'elles soient informées sur l'autopalpation. Palpez vos seins régulièrement, pas aller se faire palper, parce que dans la communauté, il y a souvent la confusion, la délinquance juvénile, les filles qui s'adonnent à la sexualité précoce, ça, ce ne sont pas les méthodes qui aident. Il faut une éducation pour cela. Et comme je remarque que nos petites filles, il faut faire dépister les petites filles. Il faut que les parents sachent qu'avoir la fille à la maison, il faut savoir suivre toutes les étapes de la croissance.
La maladie est fatale et mortelle, comme vous avez dit. Quels sont les conseils des professionnels de santé comme mesures préventives à la population et surtout à la femme paysanne?
Les conseils, d'abord, j'ai dit les dépistages, là, l'autopalpation des seins. Après chaque menstruation, la jeune fille doit apprendre. C'est une méthode simple, la méthode de Thilo. Tous les personnels soignants, les médecins, ils savent ce que c'est. Nous, par exemple, ici à Beni, il n'y a pas de mammographie. Normalement, notre gouvernement doit nous doter. L'hôpital général de Beni devrait être l'unité où nous toutes nous devrions nous rendre pour nous faire dépister. C'est Octobre Rose. Mais si nous regardons dans notre province, c'est seulement à Goma ou à Bukavu ou aussi à Kivu. Et d'autres, ceux qui ont des moyens, ils vont à l'étranger, à Kampala. Mais nous toutes, nous n'avons pas ces moyens. Toute la population ne peut pas aller là-bas. Donc aujourd'hui, nous devons lutter sur cela. Nous devons prolonger la vie de nos mamans, notre vie, nos filles, nos mamans, nos grands-mères. Que ça ne soit pas une surprise. Et c'est simple, l'autopalpation et le dépistage précoce. Parce que les maladies des organes génitaux internes et l'utérus vont de pair avec les maladies du sein. Le fonctionnement des seins va de pair avec le fonctionnement du cycle menstruel de la femme. Donc nous devons parler du cycle menstruel, de l'hygiène menstruelle et du cycle menstruel et des comportements qui réduisent la fréquence de la survenue de ces cancers. Un autre effet, nous devons prendre les contraceptifs sous conseil médical. Nous ne devons pas nous habituer à prendre les pilules de protection d'urgence, là, les prendre en désordre. Ça perturbe beaucoup de choses et ça peut prédisposer à la longue. Donc, les conseils du médecin, aujourd'hui, nous sensibilisons à l'autopalpation et au dépistage précoce et que le gouvernement nous dote de l'unité de mammographie dans notre ville de Beni. ça va nous aider. Et à la femme rurale, qu'elle soit informée aussi.
Docteur Gisèle Kilomano, vous remercie.
Le médecin directeur de la clinique Ma Famille de Beni au Nord Kivu répondait aux questions de Marc Marofimbo. Par ici, prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Billy Landry Beto à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.